France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Taïsia Froidure, Martine Moni, Stéphane Poitvin, Sofiane Aktib et Olivier Deyet. Voici la seconde émission que nous allons consacrer au violoniste Dino Francescatti qui s'était un jour interrogé sur la gloire. Pourquoi recherche-t-on la gloire? Je dois dire que l'admiration du public, vous mettre sur le parvis, cela fait plaisir. Cela vous grandit vis-à-vis de vous-même et peut vous donner une grande satisfaction. Mais alors, ce changement, c'est que vous êtes un orgueilleux insatisfait. Être orgueilleux pour moi est de ne pas avoir besoin des louanges, des compliments de ses semblables. L'orgueilleux qui aime qu'on lui dise qu'il est quelqu'un, qu'il est grand, est un orgueilleux qui doute de lui-même. L'orgueil est bénéfique quand il vous incite à vous dépasser vous-même, non à abaisser ou à écraser les autres. À l'instant, si Jerry Lewis ne s'était pas inspiré de cette partition pour son sketch de la machine à écrire. En tout cas, c'était la fin des airs bohémiens, Zigeunerweisen de Pablo de Sarasate, avec Dino Francescatti et l'orchestre symphonique de la Columbia, dirigé par William Smith. Dino Francescatti, dont les enregistrements ont été en grande partie réalisés aux États-Unis, et lui qui parlait de gloire, et bien c'est surtout outre-Atlantique qu'il a trouvé cette gloire. Bien sûr, la France l'a applaudi, mais de nombreux enregistrements témoignent de l'appétit, du goût, de l'amitié du public américain à l'égard de ce violoniste né à Marseille en 1902. On en entendra des extraits avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy dans Le Poème de Chausson, l'orchestre de Cleveland dirigé par George Sell dans Mendelssohn ou encore l'orchestre philharmonique de New York dirigé par Pierre Boulez dans le troisième concerto de Camille Saint-Saëns, entre autres dans ce programme qui va se poursuivre avec de la musique allemande. Il s'agit d'un classique des violonistes du monde entier, le premier concerto pour violon de Max Bruch que Dino Francescatti a enregistré avec un orchestre qui s'appelle The Bell Telephone Hour Orchestra, dirigé par Donald Vores. Thank you.
Thank you.
Zino Francescatti, enregistré par le public américain en 1952 dans ce final du premier concerto en sol mineur opus 26 de Max Bruch avec l'orchestre du téléphone Bell dirigé par Donald Voorhees. Zino Francescatti dont nous avons évoqué hier les débuts, la formation avec ses parents violonistes virtuoses, parents d'origine italienne bien sûr, sa collaboration avec Maurice Ravel surtout en 1926. On doit mentionner également Jacques Thibault, très grand violoniste français qui avait parrainé le début de la carrière de Francescatti, qui va connaître une période de creux dans les années 20-30 où il jouait dans l'orchestre Sraram pour gagner sa vie. Il avait enseigné pendant 2 ans à l'école normale de musique entre 1927 et 29, et sa gloire, comme on le disait au tout début de cette émission, va vraiment commencer à partir de 1938 lors d'un concert à Buenos Aires où il devra être escorté par la police tant la foule était en liesse, le portait en triomphe. Et en 1939, ce sera un autre succès à New York avec l'orchestre Philharmonique. C'est là justement qu'il va s'installer en grande partie pendant la guerre, et sa carrière sera essentiellement américaine pour le disque avec un contrat signé en 1946 avec la Columbia. Mais la France était toujours présente dans le cœur de Dino Francescatti, en témoigne cet enregistrement du 13 juillet 1951 réalisé au Festival d'Aix-en-Provence. Il était avec son partenaire de longue date, Robert Casadesus, au piano dans la deuxième sonate de Robert Schumann.
Thank you. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, le concert de sonate donné le vendredi 13 juillet au théâtre de la cour de l'archevêché dans le cadre du 4e Festival international de musique d'Aix-en-Provence, avec le concours du pianiste Robert Casadesu et du violoniste Zino Franceschetti. Ici, Aix-en-Provence, Radiodiffusion française.
Et oui, ma consoeur de la chaîne nationale de la radiodiffusion française prononce bien Zino Franceschetti. C'est le violoniste qu'on entendait là avec Casadesu dans cette deuxième sonate de Robert Schumann.
Arabesque, François-Xavier Chemcha, France Musique.
Zino Franceschetti qui a laissé quelques témoignages de sa comptabilité sur la quantité de musique qu'il a apprise par cœur. Je peux jouer 2 jours sans arrêt de mémoire. Comptabilité également sur les kilomètres parcourus en tant que violoniste. 1 million de kilomètres, 3350 concerts, 180 chefs d'orchestre, 20 pianistes accompagnateurs, 40 000 heures de violon. Alors ça, comment vérifier? En tout cas, il précise qu'il a joué plus de 80 fois avec le Philharmonique de New York et 100 fois avec Philadelphie, une carrière qu'il a pu mener à bien aux côtés de son épouse, également violoniste, Yolande Franceschetti. Carrière essentiellement américaine dans la discographie, comme en témoigne cet enregistrement de l'Orchestre Symphonique de la Columbia, dirigé par Bruno Walter. On retrouve Zino Franceschetti aux côtés d'un immense violoncelliste français, c'est Pierre Fournier, pour le double concerto de Brahms.
Thank you.
C'est un chef de légende, Bruno Walter, qui dirigeait l'Orchestre symphonique de la Columbia dans cet enregistrement du double concerto de Brahms pour violon et violoncelle en la mineure opus 102, dont c'était le final, avec Dino Francescatti au violon et Pierre Fournier au violoncelle, deux instrumentistes qui seront invités en 1963 par Herbert von Karajan pour l'inauguration de la Philharmonie de Berlin avec cette même partition de Brahms. Francescatti a vécu l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, a même vécu aux États-Unis pendant la guerre et après la guerre jusqu'en 1975, date de son tout dernier concert qu'on écoutera en partie tout à l'heure. Et il s'installe ensuite définitivement en France, à La Ciotat, pour conclure paisiblement sa vie. À sa mort en 1991, Jean-Michel Molcou lui rend hommage dans le magazine Diapason. À lui seul, Francescatti a représenté le violon français après la guerre, à un moment où Heifetz et Milstein étaient eux aussi au sommet de leur art, le jeu élégant et raffiné, la sonorité ensoleillée et ce vibrato spontané qui ont toujours été les marques immédiatement identifiables de la personnalité de Francescatti s'épanouissent avec un goût exquis dans ses œuvres de musique française dont il est resté l'un des interprètes les plus inspirés. Eh bien, on va en entendre un exemple frappant avec le poème opus 25 d'Ernest Chausson, merveilleuse partition enregistrée par Dino Francescatti avec l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy.
Thank you.
Sur France Musique, vous venez d'entendre le poème Opus 25 d'Ernest Chausson par le violoniste Zino Francescatti avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous changeons de compositeur, mais pas de continent. Voici toujours Zino Francescatti, l'Américain, en tout cas le collaborateur français de grande phalange américaine, comme cet orchestre de Cleveland dirigé par George Sell, autre géant de la direction d'orchestre, qui accompagnait ici Zino Francescatti dans un classique des violonistes, le concerto en mi mineur, opus 64 de Félix Mendelssohn. Thank you. 1865. L'orchestre de Cleveland était dirigé par George Sell dans le concerto en mi mineur opus 64 de Félix Mendelssohn, joué par Zino Francescatti, qui résidait alors depuis plusieurs années aux États-Unis avec sa femme Yolande dans le Massachusetts où il s'était installé en 1951. Et puis en 1975, à l'âge de 73 ans, Francescatti déclare à sa femme « J'en ai assez, je veux rentrer chez nous ». Chez nous, eh bien c'est en France. Il décide alors de donner son tout dernier concert à New York, le 16 décembre 1975, avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Cet orchestre qui, pendant des années, a été dirigé par le très charismatique Leonard Bernstein. En 1969-70, au départ de Bernstein, c'est justement George Sell qui a été conseiller musical de l'orchestre, avant que n'entre en scène Pierre Boulez, le turbulent français, créateur du domaine musical et bientôt de l'IRCAM, devient en 1971 le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York. Et Boulez dirige de nombreuses partitions de musique du XXe siècle, bien sûr, mais également des répertoires qui sont assez inattendus sous sa direction, comme la musique de Camille Saint-Saëns, troisième concerto pour violon, direction Pierre Boulez, violon Zino Francescatti pour sa dernière prestation publique.
Thank you.
16 décembre 1975, Dino Francescati décide de mettre fin à sa carrière avec cet ultime concert à New York avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Pierre Boulez, jouant ce troisième concerto de Camille Mendelssohn. Camille Saint-Saëns. Camille Mendelssohn, c'est un compositeur qui n'existe pas plus que Félix Saint-Saëns. C'était donc bien du Camille Saint-Saëns qu'on entendait là, l'opus 61 de ce compositeur à qui pourtant j'ai consacré 8 émissions cet été sous le titre Le Carnaval de Monsieur Saint-Saëns. À retrouver sur notre site francemusique.fr. Ce violoniste qui décide très intelligemment de se retirer volontairement de la scène, contrairement à certains grands maîtres qui n'ont pas eu ce courage, je dirais, et qui ont peut-être eu une carrière un petit peu trop longue, ce grand maître de l'archet. On va le retrouver 30 ans avant cela, au sortir de la guerre, avec son grand acolyte Robert Casadesus, auteur de la sonate pour violon et piano de César Franck qu'ils ont enregistrée à New York. Et cela correspond à cet hommage de Marcel Landowski, le message l'ouvrage de Dino Francescatti est celui d'un immense violoniste français dont la raison d'être était de chanter l'ineffable et parfois de dire son amertume de voir l'abandon par son pays, la France, de ses meilleurs interprètes. Il en parlait avec tristesse en pensant aux autres, aux plus jeunes qu'il aimait. Rattaché malgré lui à l'école de violon franco-belge dont mon grand-père, Henri Vieuxtemps, fut l'une des figures les plus prestigieuses, Dino Francescatti lui conféra une dimension et une vitalité qui en firent, durant son séjour aux États-Unis, l'un des ambassadeurs majeurs de la musique et des musiciens français. Cette école franco-belge était bien sûr représentée aussi et surtout par Eugène Isaï qui avait créé cette sonate en 1886. Zeno Francescatti au violon, Robert Casadesus au piano. C'était le final de la sonate en La majeure de César Franck.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
La raison pour laquelle les soi-disant musiciens jouent sans grâce, durement, sans inflexion les passages de virtuosité, sans la musicalité, le fignolage qu'ils introduisent dans les passages lents de chant, et que leur infirme technique ne leur permet jamais de même deviner que la virtuosité allégale du passage chanté peut être exprimée avec goût, avec charme, grandeur, expression. Maître de bon doigté, c'est rechercher un bon équilibre. La main, comme l'athlète sur le trapèze, pour réussir avec le maximum d'aise et de certitude, a besoin d'un parfait équilibre et d'une position naturelle de manière à contrôler le mouvement ou la sensation de mouvement avec le maximum de facilité et de clarté. Toute succession de mouvements ou toute perte d'équilibre résulte en une sensation de difficulté énorme, quelquefois insurmontable et la plupart du temps par le bafouillage des doigts après la perte d'équilibre. Il faut rappeler que Zeno Francescatti a également été enseignant. D'ailleurs, c'est dans un livre d'une de ses élèves, Gaëtane Prouveau, que je salue parce que je sais qu'elle nous écoute, et livre de Charles de Couessin également, que l'on peut lire tous ses témoignages. Et bien, voici un extrait de ce qu'on appelle souvent la Bible des violonistes, les sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, dont Zeno Francescatti a joué un extrait lors d'un concert donné au Festival de Salzbourg le 25 août 1958. On aimerait entendre l'intégralité des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach par Dino Francescatti. Ici, c'était un extrait de la première partita en si mineur, telle qu'il l'avait jouée en bis devant le public de Salzbourg le 25 août 1958, au terme d'un récital qu'il avait donné avec le pianiste Eugenio Bagnoli. On l'avait entendu hier en extrait, ce récital. Et nous allons terminer cette série de deux émissions avec Niccolo Paganini, qui est un compositeur central dans la vie, dans la carrière de Francescatti. Je vous rappelle que son père, Fortunato Francescatti, avait été un élève d'un élève de Paganini, un petit-fils de Paganini. C'est Camillo Sivori qui avait enseigné le violon à Fortunato Francescatti, Camillo Sivori étant l'un des élèves de Paganini. Paganini dont Francescatti a joué très souvent le premier concerto. Et puis bien sûr, il connaissait depuis l'enfance le 24e Caprice, dont voici une version étonnante avec un accompagnement de piano. C'est Arthur Balsam qui l'accompagne ici.
Thank you.
1954, Zino Francescatti se produisait à la librairie du Congrès de Washington avec le pianiste Arthur Balsam, jouant notamment ce 24e caprice de Paganini, arrangement du violoniste qui a rajouté pourquoi pas cette partie de piano. Et peut-être dans la salle, il y avait Madame Eleanor Roosevelt qui avait déclaré ce prodige est digne du manteau de Paganini. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chomchak, ça en fait de belles citations, hein.
N'est-ce pas?
Ah oui, ça c'est bien. Et demain, dites-moi, c'est fini avec Francescatti?
C'est fini avec Francescatti et on commence avec Netrebko pour trois émissions consacrées à la Splendida, comme on la surnomme, qui a soufflé samedi dernier ses 50 bougies, l'occasion de revenir sur sa très belle carrière et le début de la discographie. Ce sera demain avec les années 90 et Valérie Gergiev.
Vous dites l'âge des femmes comme ça, voit l'antenne. Hein.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est plus sexiste, mon cher Lionel, passez à autre chose.
Bon,
mais oui.
Je croyais l'être encore un peu. Malheureusement, mais je me morigène moi-même. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.